crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une peinture, ou plutôt une fresque qui date de 1304 environ et qui s'appelle le baiser de Judas. Nous l'appelons comme ça. En tout cas, elle est extraite du registre sur les scènes de la Passion du Christ réalisées par Giotto pour la chapelle Scroveni dans l'oratoire de l'Arena à Padoue. Peintre et architecte toscan de la fin du Moyen-Âge, célèbre auteur des fresques de la vie de Saint-François à Assise, Giotto est à l'origine du renouveau de la peinture occidentale. Les fresques de la chapelle Scroveni à Padoue sont considérées comme son chef-d'œuvre absolu. Il avait probablement autour de 40 ans quand il a commencé cette décoration. Son client, le padouan Enrico Scroveni, était un riche marchand qui fit construire à Padoue une chapelle familiale liée à des circonstances assez particulières dont nous reparlerons pendant l'émission. Entre 1303 et 1306, Giotto peint les 53 fresques de la chapelle Scroveni autour des thèmes des vices, des vertus, des scènes de l'enfance du Christ et de la jeunesse de la Vierge et de la Passion. Loué par ses contemporains Dante, Pétrarque, Boccace, admiré par Léonard de Vinci et copié par Michel-Ange, Giotto di Bondone, qui est né vers 1267 et qui est mort vers 1337, a été perçu au fil des siècles comme l'auteur d'une révolution picturale sans précédent depuis l'Antiquité. L'historien d'art André Chastel fut au XXe siècle un commentateur important de Giotto qui insista sur l'importance de ce peintre dans l'histoire de l'art italien et la peinture occidentale en général. Pour lui, la force nouvelle de son art tient à la possibilité de représenter comme un jeu de forces qui se répondent la définition externe des êtres, leur place dans l'espace et la communication affective ou effective, les expressions des personnages en fait. André Chastel, donc notre regardeur, écoutons-le nous parler de Giotto.
L'ensemble de la chapelle Scroveni, à l'Arena de Padoue, révèle une grande décision dans le sens de la composition stricte. Cet édifice, simple haut la voûte en plein cintre, avec 6 fenêtres du côté sud, a été conçu comme un réceptacle de peinture. Peut-être Giotto en a-t-il été lui-même l'architecte. La peinture, ici, s'empare du mur tout entier et l'organise à sa convenance. Au-dessus d'un socle garni de niches en grisaille, s'étagent 3 rangs de panneaux séparés par des bandeaux. Ces panneaux contiennent les scènes de la vie du Christ et de la Vierge, les plus conformes à l'iconographie admise. Giotto n'innove pas sur ce point. Sur l'arc triomphal, l'Annonciation en 2 parties, et en dessous, de curieuses compositions abstraites montrent des chambres vides. Au revers de la façade, le Jugement dernier. Dans chaque panneau historié règne un ordre admirable auquel tout concourt. La sobriété du décor, édicule architecturé ou rocher volumineux, le resserrement des groupes en forme massive pour bien détacher le geste éloquent, l'utilisation complète du drapé qui enveloppe le corps comme une statue bordée de longs plis de manière à valoriser l'essentiel, et finalement la trouvaille franche, comme le regard échangé par Jésus et Judas dans la scène du Jardin des Oliviers, qui concentre avec autorité toute l'attention sur le moment dramatique. André Chastel, L'art italien, 1956.
Parler de cette œuvre, je reçois aujourd'hui l'artiste Natacha Lisik. Bonjour Natacha, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Voilà, vous êtes artiste, vidéaste le plus souvent, mais pas seulement, et vous vous attachez en général dans votre travail à des histoires qui parfois sont des histoires minuscules, la façon par exemple dont on fait un geste ordinaire de la vie simple, et derrière ces gestes ou derrière d'autres histoires se cachent d'étranges forces assez invisibles et qui finissent par composer nos personnages. Vous travaillez à partir de ce médium, évidemment, je suppose, il y a un lien entre cela et votre intérêt pour les fresques de Giotto, ces grands cycles qui sont presque de la vidéo, on peut dire, en tout cas c'est du montage. Et donc c'est vous qui avez eu l'idée de nous suggérer pour cette émission de travailler sur Giotto, et j'en suis ravi, je vous en remercie.
Je vous en prie.
Pour nous soutenir dans notre conversation, je reçois également Daniel Rousseau. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art médiéval à l'Université de Bourgogne. Vous êtes un spécialiste de l'art religieux, de l'iconographie et des milieux des ordres mendiants dans la chrétienté.
Oui.
Vous avez publié de nombreux livres, je pense à Saint-Jérôme en Italie du XIIIe au XVIe siècle, qui est un très beau livre publié par l'École française de Rome. Vous êtes en train de préparer pour la Revue de l'Art, je crois très prochainement, la sortie d'un article important sur Giotto. Et vous avez travaillé récemment sur les peintures murales du chapitre de Santa Maria Novella à Florence. Merci de venir avec nous.
Merci.
Nous allons parler de Giotto. Nous allons essayer de rentrer dans la chapelle de l'Arena de Giotto. Et quand on rentre dans cette chapelle, un simple rectangle nous accueille. Pas de voussure, pas de colonnes, des murs pleins rythmés par 6 fenêtres seulement et une voûte en plein cintre. En fait, tout l'espace est dédié à la peinture de Giotto qui réalise là le chef-d'œuvre de l'art chrétien. Autour de vous, les grands cycles de la jeunesse de la Vierge, de la jeunesse du Christ et plus bas, de façon à ce que nous les ressentions assez près de nos yeux et que nous puissions nous identifier à la scène, les registres de la Passion. Enfin, ce grand cycle qui s'engage avec la scène de Judas payée par les prêtres et s'achève avec la scène de la Pentecôte. À notre hauteur, les vices sur notre droite et tandis que nous avançons vers l'autel, à gauche les vertus, en grisaille. Elles sont incroyablement modelées et les personnages, comme tous ceux de la chapelle, ont quasiment notre taille. C'est nous ou des connaissances qui sont représentées. Parmi ces peintures magnifiques, attardons-nous sur celle qui représente la scène de la trahison, celle du baiser de Judas. Une peinture horizontale, presque carrée, elle fait 2 mètres par 1,80 m. Une foule se détache sur un ciel bleu dont l'unité est rompue par des torches et des lances brandies par une foule. Au centre de celle-ci, Jésus, de profil, est embrassé par Judas. Et le manteau jaune de celui-ci, parce qu'il a les bras tendus de chaque côté des épaules du Christ, le recouvre, recouvre le Christ et fait comme 2 ailes autour de lui. Jésus est plus grand, il est serein, il regarde de haut, Judas plus petit. Alors que tout le cycle accompagne, comme des familiers pourraient le faire, les fidèles vers l'autel, le corps de Judas contredit cette marche. Autour de lui, de l'agitation et du son. Pierre coupe l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre Caïphe. Les apôtres sont repoussés vers la gauche par un curieux personnage qui barre la scène, bien planté dans le sol, et qui divise ou désunit la relation du regardeur au tableau. Est-ce un diable, puisqu'il emporte la même étymologie ? Daniel Rousseau nous contredira sans doute sur ce sujet. Enfin, ces personnages réels, qui effectuent un répertoire mesuré de gestes, donnent à cette scène clé de la Passion la majesté du style monumental par une répartition extraordinaire des pleins, des vides et du mouvement des plis qui évoquent par moments la statuaire gothique. Je reçois aujourd'hui donc Natacha Nizik pour parler du baiser de Judas tel que l'a peint Giotto dans cette chapelle Scroveni. Qu'est-ce que ce cycle a à voir au fond avec la pratique d'un artiste qui s'intéresse à l'image qui n'est pas l'image fixe, qui est justement l'image mouvante ?
Il me semble au départ que l'image mouvante est une succession d'images fixes et qu'un récit de toute façon n'existe que par ce qui existe entre deux choses ou entre plusieurs choses. Eisenstein dit le montage c'est 2 + 2 = 3, et bien là le troisième c'est ce qu'il existe entre les images. Donc je crois qu'il y a une affinité naturelle, évidemment il n'y a pas de dichotomie en tout cas pour moi entre une volonté de... je dirais de narration fictive ou imaginaire, qu'elle soit dans le mouvement, ou en tout cas qu'elle soit dans l'association d'images fixes.
Est-ce que vous avez l'impression, en rentrant dans ce bain d'images qu'est la chapelle, que vous êtes quasiment dans une installation vidéo ? Est-ce que c'est exagéré de dire ça ? Sûrement, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
En tout cas, il y a un écart là de, je dirais, de nom, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas d'installation. Mais en revanche, que ça... Je dirais que le plaisir du regard et que la volonté de rentrer à l'intérieur de chacun de ces récits, qui est très forte, ressemble au mouvement que l'on fait quand on est pris à l'intérieur d'une installation vidéo ou une installation qui capte le regard et le corps. Évidemment, il y a des analogies.
Daniel Rousseau, vous qui êtes un historien, vous devez avoir une idée de la façon dont on pouvait commander à l'artiste un cycle de cet ordre-là. Est-ce que lorsque l'on commande pour une chapelle un cycle sur un thème, est-ce que c'est le commanditaire qui décide du thème? Est-ce que c'est l'artiste qui, à cause de sa notoriété, en l'occurrence Giotto, avait la liberté de le concevoir lui-même? Est-ce que vous pensez que c'est une collaboration avec le clergé? Comment est-ce que ça se passe?
C'est davantage une collaboration. C'est-à-dire que même un artiste comme Giotto et de la stature de Giotto ne peut pas imposer ses thèmes. Alors si l'on revient à la chapelle de l'Arena ou bien encore la chapelle Scroveni à Padoue, on peut déjà observer qu'il y a trois registres de peinture, de haut en bas. Un registre qui est tout entier consacré aux histoires de Anne et de Joachim. Premier registre qui est d'ailleurs complètement inhabituel, est très peu pratiqué à l'époque, autour des années 1300.
On le retrouvera en Florence un peu plus tard, avec Ghirlandaio par exemple.
Oui, mais nous serons après le milieu du XVe siècle. Hein. Puis deuxième registre, donc ce que vous avez indiqué, à savoir les histoires de Marie, et puis de la petite enfance du Christ, et enfin les histoires de la Passion et de la Résurrection de Jésus-Christ. Et pour délimiter ces différents registres, Giotto a eu besoin d'un certain nombre de textes qu'il lit lui-même, puisqu'il lit en latin, il est doctus, il est savant, et il a donc utilisé les textes apocryphes de la tradition chrétienne, bien développés, bien diffusés dans l'Église à cette époque-là. Et c'est là où l'on ressent la détermination, l'intention d'un client qui doit être assez exigeant là-dessus, un client d'ailleurs qu'on a d'abord situé comme un pluriel, un collectif, une confrérie de patriciens de la ville de Padoue, les chevaliers de Joyeux de la Vierge, pour une église qui est consacrée à Marie, et puis pour un client au singulier, Enrico Scroveni, le fils d'un usurier, Reginaldo Scroveni.
Alors on va revenir sur cette question de l'usure, parce qu'elle est à l'origine probablement de la création de cette chapelle. Mais Natacha Nizik, Daniel Rousseau nous parlait à l'instant de ces cycles et de la façon dont ils ont été conçus par le clergé en relation avec Giotto. C'est un montage. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que le passage du sujet d'une fresque à un autre sujet de fresque se fait d'une façon convaincante pour un œil moderne sur la construction du récit?
Oui, mais je pense que c'est une des choses qui m'a le fasciné le plus. Enfin, moi, je n'ai pas vu cette chapelle, mais je suis allée à Assise, et c'est vrai que on est pris. On est pris par... Alors, je pense que l'ensemble des éléments seraient à analyser clairement. Qu'est-ce qui fait que ça passe bien d'un élément à l'autre? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le mouvement? Est-ce que c'est la taille des personnages? Est-ce que c'est les gestes? Et est-ce que c'est aussi, ce qui est très étrange, c'est l'iconographie architecturale, la représentation des éléments derrière, qu'ils soient religieux ou non. Cet ensemble-là, et je pense qu'on va prendre un peu de temps de le regarder, fait qu'effectivement, on est à la fois dans l'unité, et ça crée le passage. Hein, et je crois que le rapport des... Et ça se voit beaucoup dans la pièce là, qu'on veut voir, le rapport des mouvements des visages, des expressions du regard et des gestes des mains, fait qu'aussi le regard glisse d'un élément à l'autre.
Natacha Nizik, vous avez souhaité explicitement qu'on travaille sur Giotto. Qu'est-ce qui vous retient dans le travail de Giotto?
Il y a quelque chose de très pur. De très pur et de très concentré. Et cette concentration dans l'expression, dans ses gestes, et dans ce dessin-là, est en contraste avec ces grandes formes dédrapées. Et ce contraste-là fait que moi, je me sens très proche de cette façon de choisir. Hein, quand on filme, quand on photographie, on choisit à l'intérieur du monde et de l'espace. Et là, il y a déjà un choix tellement précis, tellement poignant.
qu'il a retenu tout de suite l'attention de tous. Hein. Donc, je vous propose d'écouter maintenant un extrait du texte que consacre Giorgio Vasari à Giotto en 1550 dans sa célèbre vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Et on sentira déjà l'incroyable admiration que Giotto a laissée dans la traînée de la proche histoire.
Si l'on m'en croit, on doit avoir envers le peintre florentin Giotto la même dette qu'ont les artistes peintres envers la nature, laquelle sert continuellement d'exemple à ceux qui, tirant le beau de ses meilleures et plus belles parties, s'obstinent à la copier et à l'imiter. Car en effet, après avoir été enseveli tant d'années sous les ruines des guerres, les règles des bonnes peintures et ceux qui les accompagnent, lui seul, bien que né parmi des artistes incapables, les sut ressusciter par la grâce de Dieu de telle façon qu'on les put appeler bonnes. Et ce fut véritablement un immense miracle que cet âge grossier et incapable parvint à agir en Giotto aussi doctement que le dessin, duquel les hommes de ce temps n'avaient que peu ou pas de connaissance, revint complètement à la vie grâce à lui. Et pourtant, un si grand homme naquit en 1276, dans la campagne de Florence, à 14 milles de la cité, dans le bourg de Vespignano, d'un père appelé Bondone, cultivateur et personne fort simple. Giorgio Vasari, La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, 1550.
Daniel Rousseau, nous écoutions à l'instant Vasari, on est à peu près 200 ans après la mort de Giotto. Sa fortune critique, sa célébrité a été immédiate, son impact sur l'art de son temps a été ressenti très directement.
A été directement, oui, ressenti à Florence, dans le milieu civique, puisqu'il est nommé dans les années 1334, il meurt en 1337, hein, c'est 1267-1337. Et en 1334, il est nommé chef, maître d'œuvre du chantier de l'œuvre de la cathédrale de Florence, donc de Notre-Dame de la Fleur.
Là, vous parlez du campanile, là, au fond.
Et aussi de toute la place et du campanile. Donc, c'est un monument civil très important. Et Giotto en est le maître d'œuvre, ce qui est un signe de reconnaissance publique dans sa cité, qui est un signe tout à fait important.
Est-ce que ça... Son talent multiple d'être à la fois peintre, un peu théologien forcément, architecte, il travaille également beaucoup sur la texture et la maçonnerie, la fabrication des pigments, etc. Est-ce que c'est courant,
aussi.
La mosaïque aussi, est-ce que c'est courant cette multiple...
Oui, il serait un apprenti ou l'un des apprentis de Cimabue, un peintre florentin qui a aussi beaucoup travaillé à Assise et qui y aurait introduit. Et Cimabue était aussi un peintre, on dirait, polyvalent aujourd'hui. Peintre, c'est une des facettes de leur art. Et j'écoutais Natacha parler avec beaucoup d'intérêt. Ce sont aussi des concepteurs, c'est-à-dire des personnes qui peuvent projeter tout un ensemble décoratif avec tous les métiers d'art que cela suppose. Et je crois que le terme peut-être le plus adéquat aujourd'hui serait celui d'installation. Ce serait vraiment un néologisme et à ne pas utiliser, mais c'est un peu l'idée qu'il faudrait retenir.
Oui, c'est-à-dire la création d'un système optique qui crée une intensité dans un espace global, en fait. C'est
exactement
comme ça qu'on pourrait définir une installation. Vous êtes à peu près d'accord sur cette définition, Natacha Nizik ?
Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une dimension architecturale, en tout cas une échelle qui ferait que c'est d'une installation presque gigantesque, en tout cas des installations qui sont pour nous maintenant à l'échelle de la ville ou de l'espace urbain, hein, parce que ce n'est pas uniquement une occupation d'un lieu donné.
Non, c'est en particulier une vision d'ensemble, un projet qui implique aussi le point de vue des regardeurs, pour reprendre le titre de votre émission, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui font la cité et qui sont impliqués dans la vie de tous les jours dans cette cité.
Je crois que c'est assez marquant, Natacha Nizik, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a une façon de capter les corps du visiteur, ne serait-ce que par l'échelle. Hein. La plupart des éléments sont à l'échelle humaine et on a vraiment l'impression de corps qui se déplacent pas sur un mur, mais dans un milieu. Est-ce que vous trouvez ça, c'est un stratagème que vous utiliseriez, vous, dans votre propre travail?
Ça n'est pas un stratagème, mais en fait, c'est, le cinéma a beaucoup fait ça, hein, cette question du corps dans l'espace filmique. Mais effectivement, là, j'ai l'impression, en tout cas, dans mon expérience artistique, puisque très jeune, où j'ai visité Florence, ça a été cette idée que la peinture était parmi nous, ou était avec nous, hein, et l'art est avec nous aussi. Enfin, en tout cas, plus tard, dans ma démarche artistique, l'art et la vie ont été des choses que j'ai tenté d'associer oui. avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, que ce ne soit pas quelque chose qui soit loin de nous. Et il me semble que ça, c'est extraordinaire chez Giotto.
J'ai l'impression, Daniel Russo, que chez Chastel, mais déjà aussi, on peut dire, chez Franck Castel, même chez Faucillon, on ressent, il y a une lecture de cette rupture. Est-ce que tout de suite, on a senti, au XIVe siècle, que Giotto avait fait un bouleversement? Et est-ce qu'on arrive à caractériser ce bouleversement?
Pour les chroniqueurs florentins de la fin du XIVe siècle, des gens comme Villani, par exemple, Giotto est en effet un marqueur, quelqu'un qui fait passer eh bien, d'un régime antique des arts visuels à un régime moderne, c'est-à-dire très actuel dans la cité. Pourquoi? Parce que non seulement il est capable de revenir à l'antique et d'en recréer un pour les citoyens de Florence et les autres, de toute la péninsule d'ailleurs, mais aussi il est capable de se projeter dans l'espace. C'est au fond le Giotto architecte, mais celui qui va faire des projets d'architecture, des plans, et qui va ensuite réaliser.
Parmi ses contemporains, il y avait un admirateur singulier qui était Dante. Il y avait une sorte d'échange entre l'un et l'autre. Dante parle de Giotto comme le peintre suprême. Il dit même que la gloire de Cimabue en a été ternie. Est-ce que la relation était réelle, imaginaire? Ils se sont connus? Qu'est-ce qui s'est passé?
On ne sait pas s'ils se sont vraiment rencontrés. Il est possible qu'ils se soient rencontrés justement à Sainte-Marie-Nouvelle, à Florence, dans le couvent des Dominicains. Au milieu du XIVe siècle, un peu après, Andrea di Bonaiuto va les peindre dans les peintures de l'ancienne salle du chapitre de cette église dominicaine. Pourquoi s'y sont-ils ou s'y seraient-ils rencontrés? Parce qu'ils suivaient des cours, et notamment des cours en théologie et en philosophie thomiste, si l'on veut. Mais Dante, comme Giotto, était également beaucoup préoccupé d'optique et d'art de la vision. Se sont-ils vraiment rencontrés? Point d'interrogation, on ne le sait pas, mais ils avaient incontestablement beaucoup de préoccupations communes.
Natacha Nizik, c'est assez frappant ces correspondances entre des artistes, des immenses écrivains, l'apport d'une rupture à ce point-là. Et tout ça va concourir, Chastel nous le disait tout à l'heure, à la construction dans cette chapelle dont nous parlons, la chapelle Crovegni, où il y a cette scène que nous allons commenter plus en détail maintenant, qui est évidemment le baiser de Judas. Il y a l'arrivée de moments dramatiques. Est-ce que vous avez la sensation, quand vous avez regardé les images de cette chapelle, qu'il y a une dramaturgie organisée?
Oui, absolument. Alors elle a pour nous des codes un petit peu différents, il me semble, puisque on n'a pas, comme au cinéma, une association de montage avec des gros plans pour aider le regard à voir plus précisément ces instants dramatiques, mais j'ai l'impression que le drame se cache aussi beaucoup dans les détails. Hein, on pourra regarder dans l'image qu'on va étudier, mais il me semble qu'il y a des éléments, par exemple, des choses comme les couteaux ou des hallebardes ou bien des mouvements comme ça, de choses créent toutes sortes de tensions. Et ces tensions sont, je dirais, se succèdent dans l'espace. Et ça crée voilà, ces éléments dramatiques.
Nous rentrons dans la chapelle. Sur notre gauche, il y a un registre bas, juste au-dessus des vertus, et la quatrième ou à peu près image, ou cinquième image, faite par Giotto, est effectivement le baiser de Judas. Le cycle a commencé sur cette ligne-là, par les prêtres donnant à Judas un sac de pièces d'or. Il se continue avec plusieurs étapes et tout d'un coup, alors que tout le monde avance, tous les personnages des fresques avancent dans le même sens, il y a ce baiser qui devient comme un pivot général. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Comment est-ce que vous avez ressenti l'image quand vous la voyez?
Ce qui est intéressant, c'est que l'image, justement à cause de ce pivot, arrête quelque chose. Hein. Cet arrêt fait que le regard est obligé de, à la fois de s'adresser au visage, de regarder la façon dont ils se regardent, et puis le mouvement des bras et le mouvement des mains, très contradictoire, fait que cet arrêt, justement, il me semble de toute façon dans cette image qu'il y a quelque chose de tellement ambigu. Hein, il s'agit d'exprimer la douceur d'un baiser ou d'une fraternité ou d'une fraternisation et son propre mensonge. Donc la question c'est comment dans une image mettre en scène la trahison ou mettre en scène ce que l'image, ce qui est caché derrière l'image ou encore une fois ce qui est invisible dans l'image.
En fait, il y a deux baisers célèbres dans cette chapelle. Il y a le baiser de Judas. Et puis, il y a le baiser dans un registre supérieur et qui correspond à l'origine, à l'enfance de la Vierge. Mais là, on est encore avant, c'est le baiser d'Anne et Joachim. Mmh. Hein, puisque Anne et Joachim se retrouvent devant la porte d'or à Jérusalem, peut-être.
Devant la porte dorée
de Jérusalem, Daniel Russo.
Oui, en effet, vous avez raison, mais... c'est des correspondances qui sont tout à fait voulues entre les séquences. Bon, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si Giotto était au fond libre ou pas de son architecture d'ensemble à ces niveaux-là. Oui, il l'est. C'est lui qui a projeté ça et qui l'a fait réaliser avec son atelier. Mais je voudrais... donc oui, pour ces baisers, ces rappels
c'est
de l'un à l'autre
qui répondent. Qui sont le contraire. Il y a l'amour absolu d'Anne et Joachim, les parents de la Vierge, et puis il y a cet amour trahi du Christ et son disciple.
Oui, peut-être pourrait-on revenir après sur l'amour trahi du Christ et de son disciple. Mais pour la question du mouvement d'ensemble, de la situation de la peinture, les scènes qui sont placées sur l'arc, c'est-à-dire sur cette arcature triomphale dans le cœur de la chapelle. Une arcature qui a un rôle très important du point de vue architectonique. Elles sont distribuées de manière à relancer à chaque fois le regard, à le faire repartir. Et donc le visiteur, le regardeur pour Scroveni, pour les confrères, les chevaliers joyeux de la Vierge, quand ils sont situés dans cet espace, sont en même temps, au niveau des différentes séquences peintes sur cet arc, relancés vers ce qui est tout proche ou de l'autre côté du mur, c'est-à-dire invités à tourner autour. L'exemple de la trahison de Judas, qui est le panneau donc situé avant la remise à Judas de la bourse par les grands prêtres, avec un diable qui se saisit de Judas par derrière, que vous mentionniez également tout à l'heure, est très important parce que la relance s'effectue à partir de là, en direction du cycle de passion de Jésus-Christ et de sa résurrection. C'est-à-dire qu'il nous introduit d'emblée dans le drame de la passion du Christ et aussi souffrant ensuite sur la croix.
Alors vous décrivez extrêmement bien ce cycle et il y a un narrateur extraordinaire qui forcément pour ses talents de romancier pouvait être intéressé par cette structure du récit. C'est l'un des visiteurs merveilleux de cette chapelle, Marcel Proust. Écoutons donc un passage d'Albertine disparue où il évoque sa visite des fresques de l'Arena à Padoue et ce petit texte sera suivi par Daniel Arras.
Après avoir traversé en plein soleil le jardin de l'Arena, j'entrais dans la chapelle des Giotto, où la voûte entière et le fond des fresques sont si bleus qu'il semble que la radieuse journée ait passé le seuil elle aussi avec le visiteur et soit venue un instant mettre à l'ombre et au frais son ciel pur. Son ciel pur à peine un peu plus foncé d'être débarrassé des dorures de la lumière. Comme en ces courts répits dont s'interrompent les plus beaux jours, quand, sans qu'on ait vu aucun nuage, le soleil ayant tourné ailleurs son regard pour un moment, l'azur, plus doux encore, s'assombrit. Marcel Proust, Albertine disparue.
Giotto, effectivement, a une position tout à fait intéressante.
Daniel Arras.
Depuis que Vasari, et avant Vasari, Dante lui-même, dès Dante, les contemporains de Giotto, avaient cette idée que Giotto a dépassé Cimabue, qui avait ouvert la voie pour quitter la manière des Grecs, c'est-à-dire en fait la manière byzantine, hein, telle qu'on concevait à l'époque. Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui encore, confirmer ou nuancer ce point de vue, eh bien, c'est que, effectivement, Giotto, par rapport à Cimabue et par rapport aux contemporains siennois, par exemple, qui sont également très importants, artistes très importants comme Duccio et ses suiveurs, bon, eh bien, Giotto apporte quelque chose qui est, je dirais, la notion de volume physique, représenté par la peinture, un volume. C'est-à-dire que ce ne sont plus, le principe de la composition n'est plus l'élégance décorative de la ligne et de la surface utilisée comme telle pour des effets d'or, etc. Mais l'idée que la volume, la figure vient en volume devant, en avant, légèrement du plan de la représentation. Et là, Giotto amorce un mouvement, effectivement, qui sera considérable, qui va tendre à faire que la figure de l'histoire peinte se détache du lieu et auquel elle appartient et donne l'impression qu'elle peut se mouvoir à travers ce lieu. Et à partir de là, c'est là que très progressivement, mais en 2 siècles, en 200 ans, va se créer, dans le fond, ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace moderne de la représentation. Donc, de ce point de vue-là, Giotto, effectivement, est à l'origine de ce mouvement par le volume qu'il veut donner aux figures. Volume, on dirait des figures volumétriques qui sont posées sur le sol, dont les plis des vêtements sont articulés par la lumière, et figure aussi que Giotto s'acharne, serait trop fort, mais tient à montrer comme franchissant des limites, franchissant des portes. Si vous prenez par exemple la fresque Saint-François chassant les démons d'Arezzo, eh bien, il y a la maquette de la ville d'Arezzo, avec les démons qui s'enfuient. Saint-François est à l'extérieur de la ville. Il est disproportionné, bien sûr, par rapport à la ville. Et on reprochera ensuite à Giotto, au XVe siècle ou au XVIe, de ne pas savoir adapter les figures à l'architecture. Mais si on regarde bien, on voit qu'à travers la porte miniature de la ville, eh bien, deux petites figures sont en train de sortir, non pas des diables cette fois-ci, mais des hommes, de la ville. Et cette volonté d'articuler la figure à son lieu est une des données fondamentales de l'art de Giotto.
Nous entendions la voix de Daniel Arras qui commentait donc le fait que Giotto a permis à la peinture de sortir de la manière byzantine. Et Natacha Nizik, Daniel parlait de la façon dont l'architecture et les hommes se mêlaient dans ces fresques d'Arezzo, par exemple, puisque là, aujourd'hui, nous parlons plutôt de celles de Padoue. Mais néanmoins, cela existe encore à Padoue et ça sera peut-être la marque définitive de l'apport de Giotto. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mélange d'architecture peinte et d'humain peint? C'est un monde total. Est-ce qu'on pourrait dire, puisqu'on exagère sur les rapprochements, que c'est une œuvre d'art total, le projet de Padoue?
Oui, éventuellement, oui. Enfin, en tout cas, en écoutant Daniel Arras, je pensais aussi que moi, j'avais surtout la sensation de corps multiples et de masse et de quantité. C'est-à-dire que la figure était extraite de quelque chose, mais cet ensemble, à la fois par l'ensemble des images qui se succèdent, et puis aussi la quantité de corps dans un espace donné, était peut-être même le contraire du volume, c'est-à-dire que les choses ne sortaient pas, mais au contraire créaient des ensembles. Et dans ce sens-là, on peut parler d'un ensemble total.
Très ordonné, n'est-ce pas, Natacha Nizik, sous ces corps qui apparaissent, il y a effectivement beaucoup de monde dans ces fresques, mais il n'y a pas une sensation de désordre, de... Non ? Qu'en pensez-vous ?
Non. Pas de désordre, mais de quelque chose qui ne s'exprime pas totalement. C'est-à-dire que dans l'effet de masse, dans l'effet de drapé aussi, les corps qui sont absents, enfin en tout cas qui n'existent que par les formes du tissu, ne laissent apparaître que le reste du mouvement souvent des bras, des visages et éventuellement des mains. Et ces détails-là, ces éléments-là, sont ceux qui font justement que notre regard va circuler. Mais ils créent une espèce d'absence aussi de représentation, de masse, et ce qui n'est pas le contraire du désordre.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça contribue, comme le laissaient entendre et Chastel et Daniel Arras il y a quelques instants, que cela contribue à la force expressive et que ça, c'est assez nouveau. C'est peut-être une rupture avec le monde byzantin qui était plus influent auparavant.
Oui, qui était plus stylisé, je dirais plus, j'ai envie de dire presque plus conceptuel.
Oui, plus symbolique.
Plus symbolique, en tout cas.
Plus conceptuel.
Daniel Russo,
oui. Plus conceptuel.
Vous êtes d'accord sur ce mot?
Oui, oui. Conceptuel, je dirais ça.
Finalement, les mots de l'art contemporain nous sont utiles pour regarder l'art ancien?
Je pense que oui, très oui. Enfin, moi, j'utilise beaucoup ce vocabulaire, notamment le mot regardeur que j'ai repris à l'art contemporain, parce qu'il me permet de, justement, impliquer un certain nombre d'intention, puis de condition de regard aussi dans ce système-là de présentation. Simplement un mot sur les couleurs.
Je voulais justement, Daniel Rousseau, oui. puisque vous l'abordez, Marcel Proust, tout à l'heure dans l'extrait que vous avez entendu, parlait du bleu, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
C'est cela, c'est cette remarque de Marcel Proust sur le bleu, et je pense que c'est très important, surtout dans la peinture de Padoue, on a du bleu partout. Donc c'est aussi ce qui permet, c'est de l'azurite, c'est étendu à large couche de badigeon. Et ça, c'est l'atelier qui travaille, mais Giotto aussi avec, et des peintres de bâtiments au fond. Et ça permet d'unifier tout le fond. Ça ne renvoie pas à une nature ou à une idée de nature, absolument pas, puisqu'il y a des intérieurs qui sont également sur fond bleu, donc pas du tout d'idée de ciel, hein, ou l'idée de nature n'est pas du tout présente, mais c'est une certaine conception d'un espace qui est justement un espace de passage, de franchissement, de transition, de séquence à séquence, et qu'on retrouve partout. Et en même temps, la manière de dire tout cela, c'est artificiel au fond. Tout ça, c'est un monde d'art et un monde de foi, de religion.
Mais pardon, Daniel Rousseau, vous avez raison de dire que ce n'est pas le ciel, mais néanmoins, ce n'est plus non plus l'or byzantin. Est-ce que on dit souvent que Giotto est le premier à avoir rompu avec le monde très mental de Byzance. C'est peut-être pas le premier. On retrouvera ces bleus ailleurs dans des suiveurs aussi, soit Taddeo Gaddi ou Simone Martini et d'autres. Mais c'était assez nouveau. Néanmoins.
C'était assez nouveau, mais...
Quelle est la différence entre le bleu et l'or ? Si vous dites que l'un comme l'autre sont des expressions mentales...
Tout à fait, l'or est beaucoup une expression mentale et la façon peut-être de surenchérir sur la préciosité du sujet qu'on veut rendre. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose de très matériel, l'or, contrairement à l'azurite. Parce que cela permet de disposer d'une lueur interne à la matière même de la peinture et à la faire rejaillir dans le regard. Il faut penser que tous ces espaces étaient des espaces assez sombres.
Il n'y a que 6 fenêtres dans toute l'église.
Qui n'étaient éclairées que par des luminaires, que par des cierges. Donc l'or, ça permet en même temps d'éclairer de l'intérieur tout ce dispositif de peinture.
Vous avez été frappé par ces bleus immenses que vous avez d'ailleurs aussi à Assise.
Oui, je trouve ça magnifique, mais je me demandais si, en tout cas, ma lecture était plus naturaliste que ça. Je voyais quand même une représentation cosmogonique ou cosmique, naturelle, et justement ça se différencie.
Il y a ce détail extraordinaire dans la perspective de l'église où il y a les deux anges qui enroulent le ciel bleu pour que l'on voit les mystères qui sont derrière au fond. Ça, c'est un moment incroyable. Ce qui donne la sensation que c'est quand même un ciel.
À cette partie-là de la fresque, oui. C'est un ciel et il y a là ce mouvement d'enroulement. Mais pour montrer que ce ciel, c'est pas tout à fait ce que l'on pense et que un certain nombre de réalités visibles, voire de concepts intelligibles, se situent au-delà. Et donc, dans l'artifice. Et c'est ça ce qu'on veut montrer, je pense.
Est-ce que, Daniel Rousseau, une question, est-ce que vous pourriez préciser à nos auditeurs qui, sans doute, ont une curiosité à cet égard, sur ce bleu de la chapelle Scroveni, de ce Giotto que nous regardons, c'était imposé, la couleur était imposée, ce bleu en particulier, par le commanditaire. Il paraît que c'était lié à une richesse très particulière qui était le lapis-lazuli.
Lapis-lazuli, mais là, nous n'avons pas du lapis-lazuli, nous avons de l'azurite. Justement, donc
c'est... Vous pouvez m'expliquer la différence, je ne vois pas très bien. Ce
n'est pas du tout quelque chose de précieux, c'est un pigment dont on va se servir, aussi bien d'ailleurs pour transformer d'autres couleurs à la base, dans les mélanges, et puis ensuite pour badigeonner aussi les murs, servir de fond. Donc ce n'est pas la même chose. Pour le lapis lazuli, c'est un petit peu plus tard, au cours du XVe siècle, et on trouve ça avec un certain nombre de peintres, Fra Angelico par exemple, et d'autres, Benozzo Gozzoli aussi, Botticelli évidemment.
Natacha Nizik, l'amour trahi de Judas et du Christ, C'est un moment dramatique. Le Christ donne l'impression d'être très digne. Comment est-ce que vous voyez la scène, vous qui êtes une cinéaste aussi?
Je me suis dit que finalement, il y avait peut-être dans tous les gestes des formes de trahison. Et que c'était aussi une des choses les plus difficiles à faire, ça. C'est-à-dire de montrer quelque chose et son inverse et son contraire. C'était peut-être un des enjeux les plus grands de la création artistique, que ce soit au cinéma ou en peinture.
Parce qu'en fait, on parlait de ces deux baisers, celui de d'Anne et Joachim, les parents de la Vierge, et celui-ci, techniquement, deux visages qui s'accolent, ça se représente de la même façon. Comment est-ce qu'on fait pour que deux visages qui s'accolent, dans un cas, expriment l'amour et dans un cas, expriment la trahison? Comment est-ce que l'artiste fait?
Eh bien, l'artiste n'a pas la parole avec lui.
Il exactement.
Souffre.
Alors que vous, en vidéo, vous l'avez parfois. Vous êtes aidé.
On peut choisir de l'avoir éventuellement, on peut choisir de s'en abstenir, on a le choix en tout cas, mais effectivement j'ai pensé à cette souffrance de la parole et je me suis demandé si aussi le fait qu'on ne sache pas avant quelle était l'histoire qui était contée, quel était le moment, n'influe pas notre regard. Est-ce que cette même image montrée sans aucune explication insinuerait de la même façon cette trahison? Et j'ai cherché dans l'image des éléments comme ce geste de couteau et puis ce personnage diabolique qui tire le rideau. Et je crois que je suis restée très longtemps sur ce geste-là à gauche de l'image, du rideau qui est tiré et qui, je crois, en dit encore beaucoup plus sur la trahison que le geste même du baiser, qui est très ambigu. À le regarder précisément, est-ce qu'il dit l'amour ou le désamour?
Peut-être qu'il y avait un code symbolique des couleurs. Judas est en jaune, couleur symbolique de la traîtrise. Est-ce qu'on peut croire à cette iconographie des couleurs, Daniel Russo?
De mon point de vue, non. Mais c'est mon point de vue.
Défendez-le.
Si vous voulez, je pense que le jaune qui est utilisé là, c'est un jaune safran, très fort, qui va être repris aussi pour le Judas tiré par le diable auquel Natacha fait allusion. Et c'est une manière de bien, un marqueur visuel très fort dans l'ensemble, encore une fois, de ces panneaux peints à fresque. Ça accroche le regard. Ça accroche le regard, pourquoi? Parce qu'il s'agit de montrer, alors, Judas en train de trahir le Christ ou sur le point de le faire. On est dans la scène du baiser de Judas au moment où Judas embrasse Jésus-Christ, mais est en même temps déjà résolu à le trahir. D'ailleurs, ensuite, sur l'arc, le montant de l'arcature triomphale, il reçoit le prix de sa trahison. Donc, il y a là une force rhétorique de l'image et qui passe beaucoup par ce marqueur visuel. Et Judas, qu'est-ce que c'est dans cette peinture? C'est, au fond, la figure ancienne de l'argent, du prêt à intérêt que l'Église ne tolérait pas. Et la figure moderne du prêt que l'Église accepte finalement, et accepte aussi de couvrir via les ordres mendiants, les franciscains en tête, c'est d'une certaine manière Enrico Scroveni, qui va être, lui, placé de l'autre côté.
Alors, peut-être rappeler donc l'histoire, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais cette église, la création de cette chapelle, est liée à l'usure.
Est liée à l'usure, tout
c'est
à fait.
C'est-à-dire au prêt avec intérêt. C'est
au
ça
prêt
que
avec
dire
intérêt.
Par
Reginaldo, le père de Enrico Scroveni, était un marchand usurier qui pratiquait donc ce commerce de l'argent à grande échelle. Et puis, et à grand niveau, et ayant fait des profits illicites, ensuite, le fils prend aussi exactement le même type de profession et s'acquiert de cette fondation de chapelle. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans le choix de ces séquences, dans la mise en évidence de Judas, on a la présentation de ce qui était condamné par l'Église, l'ancienne conception de l'usure. Reginaldo et surtout Enrico, c'est la nouvelle conception. Le marché, au fond, l'argent aussi qui en résulte, tel que l'Église a fini par l'accepter.
Et donc on a un changement de monde et on arrive dans un
monde oui.
Beaucoup plus réaliste ou naturaliste qui correspond peut-être d'ailleurs à l'inventaire du réel que fait Giotto dans son travail qui quitte le monde strictement symbolique pour arriver au naturalisme. Écoutons justement un autre extrait d'André Chastel à propos de Giotto sur la question du naturalisme.
Le naturalisme de Giotto s'impose donc une double limitation. Ni l'espace ni l'expression ne sont recherchés pour eux-mêmes. Le premier n'est que la condition d'un développement suffisamment solide et convaincant des formes, le second d'un effet dramatique intense. Le naturalisme n'est donc pas le dernier mot de Giotto, qui aspire en fait à la conquête d'un style complet, comparable à celui de la grande statuaire des cathédrales, trois quarts de siècle plus tôt, ou à la poésie dantesque, qui concentre et dépasse par son ordonnance la richesse concrète de la lyrique occidentale. En termes scolastiques, le peintre tente à expliciter dans chaque être une énergie propre, à le saisir conformément à ce que saint Thomas nommait le principe d'individuation. Chaque être est posé avec sa consistance originale, d'où le plaisir évident de l'artiste à déployer toutes ses forces en action. Mais en même temps, il y a un principe supérieur auquel tout doit être finalement rapporté. Cette loi, qui dirige et compose toutes les énergies particulières, est celle d'un cosmos ordonné à la manifestation d'un plan divin à travers certains moments d'action, de drame. D'où le don prodigieux d'objectivité, de paisible affirmation, que seuls ont retrouvé les maîtres les plus élevés de l'Occident. Un Pierrot, un Poussin. André Chastel, L'art italien, 1956.
Natacha Nizic, vous écoutiez avec moi André Chastel parler de Giotto, puisque nous, ensemble, nous regardons les fresques de Giotto de la chapelle Scroveni, et vous entendiez Chastel parler du naturalisme. Alors, il le soutenait avec force, puisqu'il disait que chaque personnage a son énergie propre. Mais c'est si loin de nous. Est-ce que vous pensez qu'on ressent encore, en regardant les fresques de Giotto de la chapelle Scroveni, le naturalisme qui a tellement frappé ses contemporains?
Ah oui, 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 très intensément.
C'était pas un monde symbolique, religieux, lointain. Il appartient, il nous est contemporain.
Oui, je pense. Ce qui peut nous paraître comme ça une représentation lointaine, ce sont les rapports d'architecture qui sont peu naturalistes ou en tout cas, voilà, par fragments. Et même si je trouve que depuis la peinture moderne ou même l'art contemporain a largement joué des questions d'échelle et des représentations, donc on n'est pas très loin de tout ça.
Il y a des expressions quand même chez les personnages. Vous disiez tout à l'heure que c'était compliqué quand l'image est muette d'exprimer la trahison, même s'il y a l'idée du son dans certaines des fresques de la chapelle. Par exemple, dans la fresque que nous regardons sur le baiser de Judas, il y a un cor qui sonne dans l'espace et qu'on retrouvera peut-être dans les trompettes de Piero da Francesca à Arezzo plus tard, mais qui amène une sonorité. Il n'y a pas de parole, mais il y a une sacrée sonorité et il y a parfois du fracas. Vous le ressentez?
Je ne sais pas si je ressens du fracas.
Vous n'êtes pas obligé.
Non, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont contradictoires. Que s'il y a un fracas, il vient plutôt de cet échange de très grand calme, de cette grande maîtrise et de cette architecture comme ça qui fait que le corps est pris à l'intérieur de cet ensemble d'êtres. Il y a vraiment des présences.
Agitées par des lances comme ça qui dépassent.
Oui, mais il y a quelque chose de statique et les lances affirment des dessins, des perspectives, qui sont contradictoires. Il y a un jeu très contradictoire entre la verticale et l'immobilité et puis ces mouvements. Et je crois que le fracas vient de là. C'est pas un fracas bruyant et éclaté. Au contraire, c'est retenu.
Est-ce que ça vous fait penser au lance d'Uccello?
Absolument, oui. Évidemment, je crois que c'est la première image que j'ai regardée à nouveau. là, récemment pour justement me... J'avais le souvenir de, du croisement des lances et leur mouvement. Et je me suis aperçue là qu'elles étaient un peu... Il y avait une petite différence. Le mouvement était moins dense. Et surtout, au sommet des hallebardes, il y a toutes sortes d'instruments très étranges là, dans la fresque que l'on regarde.
Oui, on ne sait pas si c'est des pierres qui sont prises à l'intérieur de certains... Parce qu'il y a des objets qui sont des objets militaires, puis il y a des objets qui sont des objets vernaculaires. On a l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Rousseau ?
Tout à fait. Le fracas, vous pouvez l'avoir, mais ce n'est pas vraiment un fracas, c'est un charivari. Vous l'avez dans la séquence des peintures du registre du haut, dans toute l'histoire de la petite Marie que Joseph, au fond, va demander en mariage et va avoir. Il y a cette espèce de cortège avec ce charivari. Pour la scène qui nous intéresse, la trahison de Judas, il n'y a pas vraiment de fracas. Et je suis bien d'accord avec Natacha, là c'est davantage une opposition de direction, entre des directions, et c'est par là que passe l'opposition des caractères. Et Giotto avait aussi rendu comme cela l'opposition entre François d'Assise, sa vocation, et puis son père, le marchand, qui voulait pas du tout que son fils eût cette vocation-là, dans les peintures de la basilique Saint-François d'Assise, église supérieure. Toujours une opposition directionnelle très forte, très contrastée.
De façon à créer une tension qui est au fond l'expression psychologique qui passe par des moyens strictement plastiques.
Tout à fait.
Ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, comme il faut bien trouver une réponse au silence de la peinture et parvenir quand même à exprimer une psychologie. Est-ce que vous sentez une psychologie ainsi dans les personnages ?
Une caractérisation, effectivement, dans le détail des visages aussi. Hein. Il y a évidemment des personnages dont on peut imaginer qu'ils soient plus retors ou plus méchants, et d'autres plus sereins.
Vous avez raison de dire qu'il y a une correspondance entre laideur et méchanceté, un petit peu dans le tableau. Hein. Les méchants sont laids. C'est curieux.
Oui, il y a de toute façon dans l'histoire de la peinture...
De profil. Ils sont vus de profil. Et du coup, ils sont découpés.
Daniel Rousseau, oui.
Et ils sont découpés de manière très abrupte. Et ils semblent laids. Mais ils sont vus de profil, les autres étant plutôt trois quarts. Et c'est vrai qu'il y a une opposition là aussi très forte du profil aux trois quarts. Ce qui est tout à fait nouveau.
Seul le Christ est vraiment de profil, comme une médaille.
Comme une médaille. Parce qu'il est déjà intemporel,
oui.
Et qu'il y a aussi cette double présentation d'une essence double, au fond, humaine et divine. Il est des deux régimes, hein, des deux registres.
Natacha Nizik.
Je regarde à nouveau.
Est-ce que vous avez aperçu, Natacha, que entre dans le calice qui sépare le visage de Judas de celui du Christ, se glissent deux autres visages que l'on voit comme des coins à l'intérieur de l'image.
Oui, je le vois maintenant.
C'est assez frappant, c'est cette façon de gonfler l'image avec des coins.
Oui, enfin de se servir aussi de cet interstice qui est sombre, hein, et c'est à l'intérieur de ce qui est sombre que d'autres regards qui peuvent être les nôtres, ou en tout cas qui peuvent porter ce drame ou cette chose non expliquée, cachée. Hein, il faut que ça se cache là où c'est sombre, justement.
En effet. Daniel Rousseau, vous parliez tout à l'heure de Saint-François et des relations avec son père et de la tension. Sur Giotto, on imagine une influence forte du franciscanisme, ou en tout cas de François. Et pourtant, parfois c'est débattu cette question. Qu'en pensez-vous ?
Oui, très débattu, parce qu'en même temps, ce n'est pas un adepte de pauvreté volontaire, Giotto. Hein.
Il était même contre la pauvreté.
Oui,
il y a eu un conflit
tout
sur
à
cette
fait,
question
oui,
avec les franciscains.
Oui, avec les franciscains, et donc il n'est pas adepte de la pauvreté volontaire, même si un certain nombre d'idées... Et puis un certain nombre aussi de traités des franciscains lui sont tout à fait connus. En particulier, ces questions de marché, de juste prix, de merces en latin, si vous permettez, donc de juste prix. Et c'est des questions qui le sollicitaient beaucoup aussi, Giotto. Et par là, il avait incontestablement des préoccupations qui rejoignaient celles des frères dans la cité. Des franciscains, mais aussi, on pourrait dire, des dominicains au même moment.
Alors il y a un personnage qui va beaucoup admirer Giotto, pour parler d'une autre influence que cette fois-ci Giotto a eue, et non pas qu'il aurait reçue, c'est Pétrarque. Pétrarque amène une psychologie et parle de Giotto comme celui qui la porte avec lui déjà.
Oui, et en particulier la notion d'intériorité, la notion d'un air dans la peinture, c'est un air au fond qui est l'indice de toute une psychologie personnelle, individuée de plus en plus. Donc le sentiment d'une intériorité qui serait sous-jacente aux couches de peinture de Giotto.
Vous ressentez cet aspect d'intériorité des personnages? Ce sont des personnages qui, tout à l'heure vous disiez que l'image contenait des secrets, ou en tout cas, sinon des secrets presque du non-dit. Vous avez la sensation de personnages pleins d'intériorité, plein de sentiments, plein de mystères. Comment est-ce que vous voyez ça, Natacha Nizik?
En tout cas, je crois que c'est l'écart avec cette peinture du Moyen-Âge ou byzantine, moi, qui m'a frappée. Hein, c'était qu'au départ, on avait des visages de vierges ou des visages d'enfants ou de Jésus avec quelque chose de parfaitement lisse et souvent de face. Là, on change effectivement, comme on vient de le voir, de profil, avec des choses beaucoup plus marquées aussi dans la façon de représenter ces caractères. Et les masses des corps est très importante. Cet ensemble des masses et de cette précision extraordinaire des détails très réalistes crée une très forte présence. Et du coup, de cette présence, une intériorité. Il y a tout un chemin dans la façon de faire que le spectateur n'est pas éloigné par des surfaces réfléchissantes, mais attrapé, pris au piège à l'intérieur de ces détails et de ces masses.
Vous avez raison, Natacha Nizik, je ressens aussi cette intériorité. Nous avons regardé ensemble cette fresque, donc il me reste à vous remercier beaucoup pour vos profonds commentaires. Daniel Rousseau, merci infiniment pour vos commentaires extraordinairement éclairants et intéressants. Merci.
Sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé ensemble le baiser de Judas, une fresque peinte dans la chapelle Scroveni à l'église de l'Arena à Padoue par Giotto entre 1304 et 1306. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attachée d'émission, Brigitte Masson. Merci Brigitte. Lecture des textes, Pauline Ziadé. À la technique, Olivier Dupré. Réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy.
Come before you go. Go until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come for me, babe. To go by me, babe. Come to go.